Cobuzz.com. Rencontre par Yves Riesel.
Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau podcast Cobuzz que nous avons le plaisir de réaliser aujourd'hui en présence et en dialogue avec David Bleicher. David Bleicher est une figure de la haute fidélité en France et à Paris en particulier. Il dirige un magasin qui s'appelle Présence Audio Conseil, situé non loin du Cirque d'Hiver, 10 rue des Filles du Calvaire, et qui est une sorte de caverne d'Ali Baba de la belle haute fidélité. Bonsoir David.
Bonsoir.
Depuis quand exercez-vous ce coupable métier ?
Oh là là, faut-il en parler ? 1976, voilà.
Et donc, que faisiez-vous avant ?
Ben, j'étais un peu ingénieur du son, voilà.
Ah, voilà quelqu'un donc qui vient de...
J'étais de l'autre côté de la vitre, voilà. Ouais. Donc j'ai travaillé pour des maisons de disques. Enfin, d'abord j'ai commencé par étudier à la radio, avec Maître Laracine, comme... professeur de prise de son, et ensuite j'ai travaillé dans plusieurs studios d'enregistrement avant d'ouvrir ma boutique.
À la radio, vous travailliez pour les antennes de la radio publique,
hein ? Oui, France Musique, France Culture.
Vous faisiez des prises de son ?
Exactement.
Qu'est-ce que ça a de particulier quand on est preneur de son de travailler pour la radio ou de travailler pour le disque, par exemple ?
Je dirais que ça vous donne une vision un peu plus à distance du son. C'est-à-dire que de travailler à la fois sur la musique, donc la reproduction des timbres et de la véracité de l'ensemble orchestral, est intéressant, mais de faire du bruitage, d'enregistrer des speakers, des conversations, parfois même du théâtre, vous permet d'avoir une notion de l'espace et du volume encore plus précise et, je dirais, plus cernée, quoi. Et donc, je pense que ça m'a beaucoup aidé dans ma pratique de la prise de son musique et ensuite, évidemment, dans ma pratique de vente de matériel IFI, puisque j'essaie de retrouver les sensations que je retrouve face à un orchestre, tout en sachant que, malgré tout, j'aurais jamais l'orchestre sur les genoux, je l'aurais au travers d'une prise de son, au travers du travail de l'ingénieur du son. Et quelque part, ce qui est important pour moi aussi, c'est de retrouver ce travail. C'est-à-dire que, comme un grand photographe, un grand ingénieur du son, c'est quelqu'un qui a une patte, c'est quelqu'un qui a des désirs, qui fait passer quelque chose. Et ça, j'y suis très sensible. Et si le système ne me permet pas de l'entendre, je le qualifie de moyen à médiocre.
Voilà. Quand vous écoutez un enregistrement, donc, vous écoutez ça, c'est intéressant parce que probablement pas tout le monde dans ce métier n'a eu cette expérience de la prise de son. Et donc, vous l'écoutez... c'est-à-dire que vous avez imaginé quelle a été la cuisine qui a été faite par derrière. Parce que quelque chose m'a toujours frappé. On promet aux gens qui achètent des appareils haute fidélité d'avoir dans leur salon, c'est une réclame un peu datée, 50s, mais qui continue à bien marcher. Hein. Moi, j'ai parlé avec des gens au dernier salon de l'IFI et ils espèrent cette fiction d'avoir l'orchestre dans le salon. Or, quand je regarde une prise de son se faire, D'abord, ça se fait généralement, ça se passe pas ni dans un auditorium ni dans un théâtre. Ça se passe dans un studio. Il y a des micros absolument partout depuis le fond, et on a l'impression que c'est que l'image sonore finalement restituée à la sortie est une image complètement refabriquée. Et vous, quand vous écoutez un enregistrement, vous savez comprendre.
Oui, il est sûr que j'entends la fabrication, mais. Il faut savoir aussi s'abstraire de la fabrication et essayer d'entendre globalement, d'écouter globalement et de voir si effectivement ça provoque quelque chose en vous, si il y a des émotions qui passent, si donc, et ces émotions elles naissent du concert, c'est-à-dire que bon, il faut vraiment avoir participé au concert et au concert dans ce qu'il a d'expérience. Communautaire, c'est-à-dire on est tous réunis, on est tous dans une ambiance, on est tous dans une atmosphère, et on doit retrouver ça, c'est-à-dire ces enregistrements qui vous donnent l'impression d'être dans une sorte de bocal où on entend chaque instrument à droite, à gauche, à aucun moment ça peut vous donner l'illusion du concert, l'illusion de la réalité. Donc la fidélité, c'est ça, c'est la fidélité à la vérité de la prise de son, mais aussi à l'émotion de la prise de son.
Qu'est-ce qui vous a conduit à l'époque à changer de métier, plutôt à choisir ce métier de revendeur, conseiller de haute fidélité ?
Ah, la seule bonne raison que je pouvais avoir à cette époque-là. Vraiment la seule bonne raison. Je venais d'avoir des jumeaux. Et donc, des jumeaux, vous savez ce que ça représente, c'est un petit peu compliqué à gérer. Et quand vous êtes ingénieur du son et que vous travaillez la nuit, parce que je travaillais, dans la dernière époque, je travaillais pour les disques Vogue, donc c'était des séances de nuit... jusqu'au petit matin, très souvent. Et donc, il est impossible de se consacrer à la fois à ses enfants et à ce travail. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose qui allie les deux, tout en respectant ma passion, qui était malgré tout ma passion du son. Donc, voilà, c'était la meilleure idée que j'ai pu trouver. J'ai eu des jumeaux, j'ai continué avec la stéréo. Voilà, il y avait une sorte de logique de continuité là-dedans.
Alors aujourd'hui, est-ce que votre métier a beaucoup changé dans la manière dont vous... Est-ce que ce sont finalement les mêmes clients qui rentrent dans le magasin, ou est-ce que quelque chose a fondamentalement changé chez ces personnes qui aiment la haute fidélité et qui veulent, en se rendant chez vous, s'équiper mieux qu'ils n'étaient ou s'équiper pour la première fois ?
Oui, ce qui a changé fondamentalement, c'est la mode. C'est l'effet de mode, c'est-à-dire que d'un seul coup, la haute fidélité, qui pour nous était d'une certaine façon une magie, c'est-à-dire se retrouver dans le séjour avec quelque chose qui ressemble à un orchestre, pour nous c'était vraiment fascinant. Pour les générations suivantes, c'est devenu quelque chose de plus commun. On a l'habitude d'avoir la musique à la maison, d'entendre ça, et voilà. Donc... À l'époque de cette magie, avoir une chaîne haute fidélité, c'était un privilège. Et donc, on invitait ses amis, on écoutait la musique ensemble, on montrait le nouveau matériel, on en parlait, on communiquait. Enfin, il y avait toute cette dimension de partage autour du matériel, je veux dire. Ça a beaucoup changé. C'est-à-dire que maintenant, le matériel, c'est devenu secondaire. Partage existe toujours autour de la musique, mais le matériel, on s'en satisfait et il est rare de voir nos clients s'inviter les uns les autres pour montrer le nouvel ampli, les nouvelles enceintes, etc. Donc, il y a moins de paraître, mais il y a toujours autant de désir. Il y a toujours autant d'importance accordée au matériel, à la qualité des équipements. Mais c'est devenu quelque chose peut-être de plus intime.
Voilà. Est-ce qu'il y a certains éléments de la chaîne aujourd'hui qui, sont plus... davantage satisfait par une optique industrielle et d'autres qui restent plus du domaine de l'artisanal et donc du coûteux. Je veux dire, vous comprenez ma question, c'est oui. Est-ce qu'il y a des éléments de la chaîne qui aujourd'hui coûtent moins cher en fin de compte qu'avant, tout simplement parce que...
Oui, alors il y a effectivement des éléments qui coûtent moins cher et disons qu'à qualité équivalente, les seuls éléments qui coûtent moins cher, ce sont les sources. Parce que pour avoir une bonne platine tourne-disque, il fallait quand même investir pas mal, sous peine d'avoir vraiment des performances très très médiocres. Alors qu'aujourd'hui, avec un bon lecteur iPod, un ordinateur, etc., on peut avoir déjà une source d'une qualité extrême. Ensuite, du côté des amplificateurs, bien sûr, il y a eu des baisses de coûts, mais elles ne se sont pas traduite forcément par une amélioration qualitative. Il y a des matériels moins chers, on va dire. Et du point de vue des enceintes, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que là, de ce côté-là, il n'y a pas eu beaucoup de différence. Maintenant, sur les sources, il y a une réelle différence. Maintenant, il faut dire aussi qu'il y a eu une autre... Il y a un autre domaine qui, quand on a commencé, représentait peu dans la dépense de la chaîne haute fidélité, c'était les accessoires. Quand on dit accessoires, on parle des câbles. Et les câbles, d'un seul coup, sont devenus un élément de la chaîne haute fidélité au même titre que les amplis, enceintes et sources. Alors que, bon, en 76, on commençait déjà juste à découvrir qu'il y avait des différences de son entre les différents câbles, quoi.
Est-ce que vous êtes une personne qui avait envisagé l'arrivée de la musique en ligne de manière, allez, causer, répondez A, répondez B ou répondez C, violemment contre, pourquoi pas, ou violemment pour ?
Vous savez, moi, je suis ni pour, ni contre, ni... Mais pour moi, c'était une évidence. C'était tout simplement une évidence. C'est-à-dire que je me souviens, il y a quelques années, je montrais la prise de téléphone à mes clients et je leur disais bah, bientôt la musique elle arrivera là, voilà. Donc ça semble tout à fait logique, il y a rien d'étonnant. Et mon travail est plus d'exploiter au maximum la qualité des nouvelles sources plutôt que de juger de leur pertinence ou pas, hein. Le vinyle me satisfaisait, quand le CD est arrivé il n'était pas forcément entièrement satisfaisant, il l'est devenu petit à petit, mais maintenant qu'on a la musique en ligne, elle commence à devenir vraiment satisfaisante.
Est-ce qu'il est exact, quand on parle donc maintenant de musique numérique, et donc on laisse de côté le 33 tours, est-ce qu'il Alors on va y revenir, on y reviendra, mais juste une question qui s'est posée, est-ce qu'il est exact qu'il vaut mieux écouter un fichier qu'un CD ?
Ah oui, ça c'est pas tant, ça c'est vraiment une différence évidente, on l'a fait couramment, entre une écoute directe sur un CD, une écoute d'un morceau sur un disque dur, donc le fichier.
C'est formidable, parce que d'un seul coup, on économise le lecteur de CD qui aurait pu me coûter fort cher.
Bien sûr. Et bien sûr, on économise le lecteur, mais bon, moi je ne parlerai pas forcément de... Pour moi, ce n'est pas l'élément déterminant. L'élément déterminant, il est qualitatif et sur la fiabilité. Parce que les lecteurs laser, maintenant nos clients l'expérimentent, bah, ça n'a pas une durée de vie limitée. Hein. Alors qu'une fois que le fichier est enregistré, à partir du moment où vous prenez la précaution d'avoir des sauvegardes, bah, vous allez le conserver très très longtemps. Quoi, hein. Peut-être pas aussi longtemps qu'un disque vinyle, mais peut-être.
Alors, l'autre polémique que je voyais l'autre jour, on va y revenir au disque vinyle, l'autre polémique que je voyais l'autre jour fleurir sur le site, à propos d'un article que nous avons publié sur un banc d'essai, la personne disait « Oh, de toute façon, au-delà de 44, on n'entend rien, tout ça, c'est du foin. »
Oui, mais ça, c'est du foin. Ce que disait ce monsieur, c'est du foin.
C'est-à-dire on entend.
Bien sûr qu'on entend. Non, mais c'est dramatique de raisonner comme ça. Ça me rappelle ce qui se passait donc en 76. On nous disait la bande passante, c'est 20 000. On n'entend pas après 20 000. On n'entend pas en dessous de 20. Donc voilà. Et puis, il faut que ce soit équilibré. Il faut que ce soit comme ça. Bon. Et puis, un jour, on a vu des appareils qui passaient 100 000 Hertz. Et on s'est dit, bah, tiens, pourquoi ça sonne différemment ? Voilà. Bah, ça sonne différemment parce que sur les fronts raides, bah, le comportement est différent, les signaux carrés sont mieux reproduits, même si on ne l'entend pas directement. Donc les attaques sont plus franches, donc, etc., etc. Ce qui veut dire qu'on peut prendre le problème par deux bouts. On peut se dire, bon, voilà, j'ai une théorie et j'en démords pas, et ce que j'entends, c'est ma théorie, et un point, c'est tout. Ou on peut se dire, bah, y a une théorie, elle existe, mettons-la à l'épreuve de l'écoute. Tout simplement, hein, soyons bêtes, modestes, écoutons et voyons si cette théorie est vérifiée, tout simplement.
Est-ce que selon vous, il y a des gens qui peuvent avoir des difficultés d'entendre des différences pour, tout simplement pour une raison physique ?
Ah mais bien sûr, oui, ça c'est un autre problème, bien sûr. Bien sûr, vieillissement, dégradation de certaines
alors,
capacités.
Ça c'est pas de chance, parce qu'on peut s'imaginer que les personnes qui ont les moyens de s'acheter des chaînes extrêmement sophistiquées pour jouer dans toute cette finesse... ces enregistrements de haute définition ne sont pas des petits jeunes et sont des gens.
Ah, ben justement, c'est ça la merveille. Une des merveilles de la nature humaine, c'est que, quelque part, on remplace nos perceptions, nos capacités, par de l'intelligence. Et donc, on
j'avais peur que vous disiez par des prothèses.
Oh non, pas encore. Par l'intelligence, ce qui veut dire qu'on emmagasine des expériences sonores, et on cherche à les recréer juste par notre intelligence. Ce qui veut dire qu'on n'a plus besoin forcément d'avoir une écoute absolument exceptionnelle. On a juste en nous la capacité à recevoir la musique et recevoir les émotions sonores. C'est ce qui est important, au fond. Hein, c'est pas...
Oui, d'accord, mais alors comment vous justifiez les différences de prix ? Vous voulez dire par là que si je suis intelligent, je peux vivre avec une chaîne modeste ?
Non, non, vous n'avez même pas conscience de votre intelligence. Elle est là, et vous n'y pensez pas. C'est-à-dire, vous ne dites pas, c'est pas parce que je suis intelligent, je suis incapable de résoudre une équation du troisième degré. Pas du tout, c'est pas ça. Votre intelligence est une intelligence d'expérience. Et donc, vous ne la maîtrisez pas, elle est juste là. Et donc, cette intelligence, vous allez la mettre de nouveau à l'épreuve de l'écoute. C'est-à-dire, quel que soit votre âge, vous allez comparer un matériel avec un autre. Si vous n'entendez pas de différence, je vous conseille d'acheter le moins cher.
De la musique à la maison ?
Habituellement, oui. Mais là, je suis en phase de déménagement depuis quelques temps, donc ça m'est un peu plus difficile, mais j'écoute beaucoup de musique. J'écoute tout le temps,
vous avez
pas de la musique, des musiques.
Vous avez une pièce dédiée à cela, ou c'est tout ça ?
C'est mon séjour.
C'est votre séjour ?
Mais mon séjour est dédié. C'est-à-dire que y a plus de place pour ma chaîne dans mon séjour que pour... je ne sais pas, il y a un canapé, bien sûr, mais que pour le reste. Quoi. Voilà. La vie est autour de la chaîne.
Puis-je être un peu indiscret, vous ne répondez pas quand cela vous gêne. Votre séjour fait combien de mètres carrés ?
70 mètres carrés.
D'accord. Et on peut vous demander ce que vous avez comme système à la maison pour vous tout seul ?
Oui, pour moi tout seul. C'est vrai que pour l'instant, c'est effectivement pour moi tout seul. Donc c'est un système avant-garde. Uh-huh. Le modèle s'appelle Trio, avec des caissons de graphes qui s'appellent Basshorn, qui est quelque chose d'assez monumental. Que je n'aurais pas choisi juste pour le plaisir des yeux, on va dire, mais qui, sur le plan sonore, me satisfait pleinement. Voilà, j'ai une électronique française, un amplificateur de Vialet, et un Macintosh et une Rosita.
Voilà. Rosita étant l'appareil qui vous...
Voilà, étant le récepteur Wi-Fi, tout simplement, qui me permet de transmettre la musique de mon ordinateur jusqu'à ma chaîne Hi-Fi. Et puis j'ai une platine vinyle aussi, hein, parce qu'on a dit qu'on en reparlerait.
Voilà. Absolument. À propos des vinyles,
oui.
Et des sources vinyles qu'on trouve aujourd'hui, bon, vous avez une tarte à la crème, vous dites, oui, de plus en plus, on revient au vinyle, etc. Est-ce que vous écoutez des disques anciens ou est-ce que vous écoutez des nouveaux pressages ?
Non, je n'achète pas de nouveaux pressages. J'écoute mes anciens disques. J'écoute mes anciens disques ou des disques que je peux trouver. Mais quelque part, la question mérite d'être posée parce que j'ai un de mes clients qui m'a fait écouter un Stravinsky en Sermet sur un vinyle 180 grammes, etc. Et j'avoue que j'étais quand même assez cloué par la qualité sonore. Bon, mais je pense pas faire ce mouvement de nouveau. Mais je suis pas de nature à jeter, détruire. Je déteste ça. Je trouve qu'on est suffisamment entouré de produits qu'on prend, qu'on jette. Voilà. Donc, je pense que c'est une sorte de, on va dire, d'écologie musicale qui me pousse à écouter les vinyles. Et puis bon. Puis le souvenir.
Vous en écoutez plus aujourd'hui qu'il y a 10 ans, 15 ans ?
Non, beaucoup moins. Beaucoup moins. Non, ça reste une source accessoire, mais c'est une source réelle. C'est-à-dire, c'est d'autant plus embêtant parce que c'est une source qui s'entretient, il faut faire attention, poussière, etc. Pour les quelques fois où je l'écoute, parfois je me dis, oh, quand même. Mais bon, voilà, j'ai le courage encore.
Vous n'écoutez plus vos vieilles mini-cassettes ?
Ah, ça, je veux dire que j'ai jamais écouté de mini-cassettes sur ma chaîne. Non. Non, non. Même si j'ai été malgré tout l'un des premiers à promouvoir les Nakamichi, qui étaient des machines cassettes absolument extraordinaires. Mais malgré tout, le bruit de fond était quand même, à mon sens, un peu rédhibitoire.
Alors si on se présente aujourd'hui à votre magasin et qu'on vous pose la question, alors, quoi de neuf, David ? Qu'est-ce que vous nous dites ? Quelles sont les choses un peu excitantes en cet automne ? Qu'est-ce que le Papa Noël pourrait bien me déposer sous le sapin ?
Oh, bah je dirais un Macintosh. Non, c'est une blague. Je dirais, prenez votre Macintosh.
Vous voulez dire les amplis
l'ordinateur.
Avec...
L'ordinateur. Non.
Parce que j'avais pensé que vous me parleriez de l'ampli à tube.
J'aurais pu vous en parler, c'est vrai. Mais
celui qui fait grille-pain, ouais, également.
Les vieilleries, c'est pas mon truc. Quoi. J'aime bien le vintage parce que je trouve que sur le plan graphique, il s'est fait des choses absolument extraordinaires. Il y a quelques années, mais je cultive pas la nostalgie.
Vous aviez une boutique, n'est-ce pas ? Vous aviez une boutique et vous l'avez fermée et vous avez toujours les appareils ?
Oui, on a rapatrié une partie des appareils dans notre boutique principale. Et puis, on envisage de refaire de nouveau une sorte de showroom, mais dans la boutique, plus consacrée au vintage. Parce que quand même, ces objets vintage étaient assez inouïs. C'est-à-dire que c'est quand même une époque de la création où on se rend compte que ces fabrications étaient du domaine artistique, elles répondaient à aucun marketing, c'était vraiment, chaque ingénieur avait son idée du dessin, à la fois son idée technique et son idée du dessin physique, et aujourd'hui ça donne des appareils assez uniques, quoi, qui ont un graphisme souvent inégalé, quoi. Donc voilà, donc ça nous amuse un peu. Et à aucun moment, je dirais, acheter plutôt du vintage qu'un produit moderne. Il est sûr que sur le plan technique, les produits modernes sont plus performants. Je le dis et je l'affirme.
Alors, donc, cet automne, qu'est-ce qu'il y a d'excitant ? On fait une chaîne ? Est-ce qu'on peut essayer de faire une chaîne ensemble ?
On peut essayer de faire une chaîne, oui.
Allons-y.
Bien sûr.
On commence par quoi ? On commence par la source, par...
Alors, oui, on peut commencer par la source, mais... Là, va se poser la question du budget, évidemment. Parce que si on commence par faire une chaîne...
Ok, ne parlons pas du budget et parlons déjà du modèle. Si aujourd'hui, 2011, je dois m'équiper en Hi-Fi from scratch, comme on dit,
ouais.
Il va me falloir quoi ?
La source, un ordinateur.
Un ordinateur.
Voilà. Mais ça, vous l'avez, c'est bien, vous n'aurez pas à l'acheter. Vous l'avez, c'est sans problème. Ensuite, il va vous falloir un médium entre l'ordinateur et l'amplificateur de votre chaîne haute fidélité. Donc là, vous allez choisir soit la liaison par fil, et dans ce cas-là, vous aurez un convertisseur.
Un DAC.
Ce qu'on appelle un DAC.
Alors commençons par là. DAC, on va en avoir entre quel prix et quel prix ?
150 euros à 7000 euros, 8000 euros.
Ok, alors un bon petit DAC, abordable.
Mon bon petit DAC.
Un nom, une marque.
Un bon petit DAC, moi j'aime beaucoup le DAC Belcanto. Qui est vraiment un DAC, c'est un DAC américain, qui donne de très très bons résultats, très bonnes performances, mais vous verrez que je suis très mauvais commerçant, parce que je suis incapable de vous en donner le prix. Je pense que c'est dans les 2000 euros, mais ça demande à être confirmé.
Et alors un DAC de rêve ?
Ah ouais, alors ça c'est le DCS. DCS, Debussy, c'est une merveille absolue, quoi.
Donc on a l'ordinateur, on a le DAC. Je note que vous ne m'avez pas proposé de DAC à moins de 2000 euros.
Non, non, vous m'avez demandé quel était le DAC que je conseillais.
Oui, oui, oui.
Bon, après, bien sûr, il y a le DAC magique de...
Voilà, pour un étudiant qui commence...
Voilà, de 250 euros, un petit DAC qui marche bien, il y en a même des moins chers, et puis voilà. Donc, il y a des différences
c'est
de performance,
grave.
Mais c'est pas monstrueux. Quoi.
D'accord.
C'est pas monstrueux.
Alors après le DAC, l'ampli.
L'amplificateur. Et là, ça se corse parce que il va d'abord falloir choisir les enceintes. Parce que l'amplificateur va être choisi en fonction des enceintes acoustiques,
aha,
malgré tout. Alors,
les enceintes, on les prend grandes, impressionnantes, volumineuses.
Non, pas forcément, pas forcément. Si on reste,
show-off.
Si on reste dans des dimensions modestes et domestiques, on va dire, on prend une paire d'enceintes Rega, par exemple, les Rega RS5, qui sont des petites enceintes de bibliothèque.
Ça va donner de la puissance, ça. C'est pas, ça va pas être trop. Je vais sentir ma symphonie vibrer là.
Oh, elle vibrera, elle vibrera un peu moins que ce qu'elle doit vibrer, mais bon, tout dépend des dimensions de votre pièce, de votre proximité avec les enceintes. Mais disons, c'est un premier choix en termes de prix, quoi. C'est dans les 700 euros et c'est vraiment une très très belle enceinte. Voilà. Et avec ça, bah, vous mettez un ampli Rega, puisque ça, c'est tout à fait adapté, ça va très bien avec. Voilà. Et puis, si vous cherchez la simplicité, vous choisirez un DAC Rega, et vous aurez une chaîne entière, de très bonne facture, très musicale, très équilibrée.
Mais alors là, il me faudra toujours un fil
entre l'ordinateur et le DAC.
Alors, si je veux plus avoir de fil.
Alors, si vous ne voulez plus avoir de fil, là, il faudra choisir une solution Wi-Fi. Et je ne vous cache pas que c'est ce qu'on vous encouragera à faire pour l'instant.
Avec ça joindra l'amplificateur et
l'ordinateur.
Et
voilà.
Il faudra toujours le DAC à côté quand même.
Non, du tout.
Ah, le DAC sera en plus.
Il y a
ça vaut peut-être
plus de
3 en 1. Alors c'est peut-être intéressant du point de vue prix.
Non, c'est un module qui, au même titre que le DAC, va transformer votre musique de l'ordinateur en musique destiné à l'amplificateur. Donc, en termes de prix, ça se traduira par une dépense à peu près comparable, sinon parfois supérieure même.
Ah.
Voilà. Donc, dans ce cas-là, je vous conseillerais un DAC Micromega, modèle qui s'appelle Airstream. Et pour rester, disons, cohérent, même en termes de composants, on pourrait dire un amplificateur Micromega. Et une paire d'enceintes qui pourraient être des enceintes DALI, par exemple, DALI Icon 6, qui sont des enceintes suédoises, tweeter à ruban, 4 voix, très équilibrées, très très beau son, vraiment.
Je ne vous ai pas dit la musique que j'aimais, ça n'a pas d'importance.
Aucune importance.
Ah bon ?
Non, du tout, du tout.
C'est la première fois qu'on me dit ça.
Ben non, aucune importance, c'est-à-dire que vous attendez
donc
quoi
si
de votre chaîne
si j'écoute de la techno un peu trash, ça va bien passer sur cette chaîne ?
Votre techno un peu trash, elle passera bien si la troisième de Mahler passe bien sur votre chaîne. De la même façon, parce qu'elle va exiger autant de votre chaîne. C'est-à-dire de l'énergie dans l'extrême grave, de la dynamique, du relief, de la clarté, de la rapidité. Donc je ne vois pas pourquoi...
Vous m'expliquez que l'instrument d'écoute est d'une certaine neutralité.
Et c'est nécessaire.
Il couvre tout le...
c'est nécessaire, sinon ça devient un instrument de musique.
Or la chaîne n'est pas un instrument de musique. Plusieurs chaînes selon les musiques que j'écoute.
Voilà, la chaîne n'est pas un instrument de musique. C'est un instrument de reproduction. Mm-hmm. C'est-à-dire que la chaîne idéale est celle qui s'efface.
Mm-hmm.
Voilà.
Et c'est comme le papier peint. Papier peint à fleurs, c'est bon marché, mais pas papier peint lisse, comme ça, sans motif, c'est ce qu'il y a de plus cher.
Ben voilà.
Et donc, la chaîne qui fait tout et qui est disque.
Tout à fait. Et
alors là, dans notre hypothèse base, je vais avoir dépensé combien d'argent, et dans notre hypothèse haute, avec ma petite nouvelle chaîne telle que vous me l'avez décrite, ça va me coûter combien là,
disons que la hypothèse basse, on va être à 2000 euros.
Ah oui.
1500 euros. 1500 euros.
1500 euros, j'ai mon ampli, mon DAC.
Les enceintes.
Oh, ça, c'est formidable quand on pense que ça coûte une voiture stupide de nos jours.
Oui, mais enfin, ça ne sert pas exactement la même chose.
Non, c'est un fait.
Puis c'est beaucoup moins dangereux. Voilà. Non, il est confiant, puis on ne perd pas de points et tout. Non. Choisissez la chaîne.
Et dans l'hypothèse haute, à quel moment ça devient un peu ésotérique ? C'est-à-dire qu'à quel moment, en effet, on peut se demander si les oreilles entendent la différence ou si on n'est pas dans...
Ne me posez pas cette question. Je dirais qu'il n'y a pas de moment. Malheureusement, il n'y a pas de moment. Je dirais malheureusement parce que chaque fois que je choisis une chaîne ou que je vends une chaîne, je me mets dans la peau de l'acheteur et je me dis, bon, est-ce que... Il est raisonnable de proposer ça. Est-ce que vraiment ça fait sens, etc. Malheureusement, ça fait du sens tout le temps. Les plus gros amplificateurs, enfin ceux qu'on a choisis, hein, parce qu'il y a pléthore d'amplificateurs, mais ceux qu'on a choisis sont meilleurs que les amplificateurs un peu moins chers. Les grosses enceintes sont plus chères, sont meilleures que les enceintes un peu moins chères, etc. Et vous allez me dire, bon alors pourquoi vous n'avez pas chez vous les enceintes les plus chères ? Ben, je dirais parce que je ne peux pas me les offrir. Et que par ailleurs, je pense qu'on arrive là, avec le système avant-garde, à une sorte de, on va dire, d'asymptote, quoi. On a un tel niveau de qualité qu'il est difficile d'aller plus loin sans dépenser le double, triple. Voilà. Je dirais que là, on sort de la raison. Mais même mon système est quand même un peu déraisonnable, vu l'encombrement. Disons que je pense que pour... la plupart des mélomanes, ce sera un système déraisonnable.
Eh bien, merci beaucoup, David, pour ces bons conseils hein, qu'on a notés. D'ailleurs, on peut réécouter le podcast si on n'a pas tout à fait tout noté. Sinon, on vient vous voir dans votre antre de la rue des Filles du Calvaire, ou numéro 10, présence audio conseil, c'est marqué dessus. Merci beaucoup de votre visite, merci de vos conseils et à très bientôt.
Merci à vous. Thank you.